Vous écoutez Aime l'été.
Deuxième moitié d'heure et on retrouve Marjorie Théodore avec qui on a passé la prochaine demi-heure et on va continuer à converser avec elle. Mais on retrouve aussi Catherine Adams, réalisatrice, scénariste, actrice, enfin comédienne, qui fait plein de choses, avocate aussi. Hein? Ah oui, parce que ouais, au moment où on travaillait ensemble, tu faisais des études aussi en droit.
Absolument, tu que j'ai complété.
Que tu as complété et non seulement ça, mais quand même, tu as fait ton bonhomme de chemin et puis tu es allée à la Cour internationale. De la haie.
Oui, tout à fait. J'ai travaillé, en fait, suite au droit, parce que j'étais déjà comédienne, moi, quand j'ai fait mon droit, j'ai fait ça sur le tard.
Tu étais parfaite pour plaider. Tu avais ça dans le sang.
Oui, c'est vrai. Hein? Oui,
et donc, c'est ça, j'ai fait mon droit en jouant au théâtre.
Ouais.
Et ben, c'est ça. Puis ensuite, ben, je me suis... en fait, on m'avait demandé d'animer une conférence sur la Cour pénale internationale, le barreau pénal international qui allait être créé devant la Cour pénale internationale. Et donc, j'ai animé cette conférence et j'avais dit à mon mari, puisque j'étais déjà mariée, puis j'avais déjà un enfant, moi, à ce moment-là.
Oui, t'avais déjà une famille, toi.
Alors, et j'avais dit, si j'avais 20 ans, je ferais ça, moi, du droit international. Puis il m'a dit, c'est quoi ton problème, là, maintenant? J'ai dit, ben, ça se fait pas à Montréal. Et finalement, ben, je suis partie, j'ai passé l'entrevue et puis j'ai travaillé un an à la Cour pénale internationale. Mm-hmm. Ça m'a permis aussi de travailler aux Nations unies.
Oui.
J'ai fait le lien. Enfin,
t'as
bref,
été quand même partie
un bon petit bout de temps. Oui, oui, j'ai été partie presque 2 ans, mais ben, en fait, un an. Vraiment parti, puis ensuite avec des allers-retours.
Oui, c'est ça. Ouais. Alors, évidemment, bon, tu as tout un parcours de vie. Bon, justement, tu parlais de ton mari. Vous avez fondé les acteurs associés. Hein? Ce sont des comédiens qui se représentent eux-mêmes.
Oui, tout à fait. En fait, c'est une agence d'acteurs où chaque acteur est son propre agent. Donc, on fait le même travail, on reçoit l'information comme les agents, c'est redistribué aux acteurs qui se suggèrent eux-mêmes. Évidemment, il y a des critères d'entrée, c'est-à-dire que c'est des acteurs professionnels là, avec une formation. Et l'agence est maintenant à Paris aussi. On a ouvert,
une petite antenne à Paris, rien de moins.
Parce qu'on le rappelle, parce que la majorité des comédiens, quand ils travaillent, bien, s'ils ont un agent, ils ont quand même, c'est rendu 15-17% le pourcentage à donner. À l'agence, ce qui est quand même un bon montant.
Oui, tout à fait.
Alors, mais le comédien, il a du travail à faire.
Oui.
S'il travaille pour lui, il travaille.
C'est étonnant, mais c'est ça. Nous, quand on a parti cette formule-là, c'est que en fait, au Québec, il n'y en avait pas d'agent.
Non.
Pendant, à l'âge que moi, j'ai, il n'y en avait pas. Ça a commencé vraiment avec l'ancien compte. Avant ça, il n'y en avait pas. Puis le milieu est tout petit. Fait que tout à coup, il fallait que je donne... À l'époque, c'était 10 % mais il fallait que je donne 10 % à quelqu'un pour faire un travail que je faisais très bien moi-même la veille.
Oui, exactement.
Alors, donc, on a décidé de créer cette formule. Donc, ça fait 30 ans à peu près au Québec. Et juste avant la pandémie, quel timing, on a décidé de lancer ça à Paris.
Oh, mon Dieu.
Et bon, ça a été ralenti un petit peu par le COVID, mais en même temps, ça va super bien. Puis le milieu est tellement plus grand. Que c'est sûr qu'il y a de la place pour d'autres formules que des agences traditionnelles. Voilà.
C'était pas non plus trop compliqué. Ben, je veux dire, en ce sens que tu étais avocate, ça facilitait aussi les choses, finalement. Oui. Et puis, avec, ben, avec ton cher mari aussi, vous avez cofondé Global Goodness, en fait. Ça, c'est la plateforme numérique de Télé Goodness. Ça, c'est une télé qui, en fait, diffuse que des bonnes nouvelles. Oui. C'est rare, ça.
Tout à fait. Ça, c'est un autre projet de fou. Et ça, ça fait 22 ans. En fait, 19 ans, soyons précises. C'est quand je suis revenue de l'air. On s'est rendu compte qu'en fait, partout où il y avait des drames sur la planète, partout où il y avait des choses... Toujours des belles choses qui se passent et personne n'en parle.
Oui, est-ce que la planète irait mieux que ce que l'on croit? Enfin, c'est une question de point de vue, finalement, parce que à voir les nouvelles que vous diffusez là-dessus, tu dis, ben finalement, il y en a de belles choses. Là.
Oui. Et puis, il y a des endroits où ça ne va pas aussi mal qu'on le dit, parce que, en fait, le cerveau est un peu, passez-moi l'anglicisme, là, mais est un peu hardwired pour aller tout de suite aux mauvaises nouvelles, parce que c'est notre survie. Alors, tout de suite, c'est où est-ce qu'il y a du danger. C'est ça, ouais. Alors, le cerveau, lui, réagit beaucoup plus à ça que quand tout va bien.
C'est vrai.
Mais en même temps, comme on est bombardé de ça, bien, ça continue ce cycle-là. Mm-hmm. Et ouais. Nous, on avait décidé de dire, bien, maintenant, comment on fait, tu sais, pour que... Parce que moi, la Cour pénale internationale travaille sur les crimes de guerre, tu sais, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide. Je veux dire, il n'y a rien de très extraordinaire. Je veux dire, on se couche en pleurant, ouais,
c'est pas
on se lève
pas réjouissant, pas du tout, non.
Mais partout où il y a ce genre de drame, il y a aussi des belles choses qui se passent. Il y a aussi des gens qui aident les autres. Il y a aussi
l'entraide.
On pense à la période COVID aussi. Hein. Oui. Période COVID, tout semblait noir à la télévision. Hein. Tout le monde était déprimé.
C'est vrai.
On était tous à la maison, on était isolés. Mm-hmm. Les business fonctionnaient moins bien. Alors que maintenant, aujourd'hui, on en parle, il y a plein de belles choses qui sont passées.
Bien sûr. Oui, qui sont ressorties de cette période-là, en fait, aussi. Ouais. Ça a été un moment, peut-être, pour se déposer et réfléchir. Oui. Mais, enfin, j'invite tout le monde à aller sur cette plateforme Global Goodness, enfin, puis d'aller voir la télé comme telle, là. Et puis ensuite, c'est parce qu'il y a vraiment de belles histoires là-dedans. Ça vaut la peine. Et puis, il y a ça, parce que là, on va continuer. Il y a plein d'autres choses. Vous avez aussi, vous avez parti, une maison de production, là, parce qu'en fait, en quelque sorte, c'est pas tant... c'est plutôt le projet qui a...
Exactement.
Oui, ça commence par le projet. Le projet qui est cette, mémoire métissée, qui est devenu un court-métrage qui a été présenté de festival en festival, notamment à Cannes. Vous avez reçu quand même un prix, un prix
pour la meilleure
cinématographie. Exact. Et puis... alors, ce projet-là, finalement, ça a commencé justement pendant la pandémie.
Oui, tout à fait. Au moment où la planète était sur pause, on en parlait, au moment où la planète était sur pause, on a assassiné George Floyd et on a laissé mourir Joyce Echaquan. Enragée, impuissante, j'ai fait ce que je pouvais faire, c'est-à-dire que j'ai réuni des femmes métissées dans une résidence de création au Théâtre Espace Libre. On n'avait pas le droit de jouer sur les scènes, mais on avait le droit d'utiliser les salles de répétition. Donc, dans cette salle, désinfectée, masquée, distanciée, à 2 mètres, etc., on s'est raconté un peu nos histoires et ça a donné lieu à un premier texte de théâtre qui s'appelait « Whitewash », d'où le collectif « Whitewash Production ». La pièce a été pas montée parce que... Mais on a fait une lecture publique à mi-chemin un peu entre un spectacle parce qu'on n'avait pas... Évidemment, on pouvait pas faire une production pendant la pandémie. Alors, qui a eu cours, donc, une lecture publique au sortir de la pandémie au Théâtre Espace Libre. Et comme tout ça était incertain, hein, ça fermait, ça réouvrait, on savait plus trop où est-ce qu'on s'en allait. On nous invitait beaucoup à mettre nos œuvres en ligne. Or, du théâtre pas monté en ligne, c'est pas bien intéressant. Même du théâtre monté en ligne, des fois, c'est pas intéressant. Puis, c'est compliqué à tourner du théâtre. C'est pas juste une captation. Donc, on a décidé de dire, on a commencé par faire des laboratoires, en fait, pour dire comment on va faire ça, mettre ça en ligne. Est-ce qu'on met en ligne le processus? Est-ce qu'on met en ligne? On avait travaillé sur les danses qui nous unissaient, sur les musiques qui unissaient les peuples autochtones et les peuples afrodescendants.
Parce que ce sont 3 femmes, des femmes d'origine haïtienne, entre autres. Tu es une de ces femmes aussi qui, a des origines noires, mais en fait, tu es une blanche... pour le commun des mortels, là, finalement. Et puis, il y a aussi une autochtone. Alors, c'est 3 parcours et 3... Et ça va être intéressant de parler de... C'est complexe, tout ça, finalement.
Le métissage.
Bien et puis, sûr. L'identité. Mais je te laisse continuer, ce parcours...
Donc, on a commencé, on a travaillé là-dessus. Oui, effectivement, juste pour préciser, là, parce que mon père est noir, ma mère est blanche. Mon père est noir, issu de la communauté d'Halifax, donc qui est la plus vieille vieille communauté afro-descendante au Canada. Ils sont arrivés en même temps que les Européens, quoi qu'on en pense. Et je suis ce qu'on appelle, puis il n'y a pas de terme français, je suis ce qu'on appelle, on a longtemps dit « white passing ». Moi, je dis maintenant, en fait, il y a une psychologue américaine qui disait on n'est plus « white passing » parce qu'on n'essaie pas de passer pour blanc, mais on dit « white appearing ». Donc, oui, j'apparais comme étant blanche, mais je suis née d'un parent noir et d'une mère blanche.
C'est ça.
Tout ça pour dire que, donc, on a fait ce travail-là sur les racines qui nous unissaient, sur l'histoire qui nous avait amenés au Canada, sur comment tout ça s'était passé. On avait une recherche à peu près épaisse de même, là. J'étends les bras comme un pêcheur. qu'on était pendant la pandémie, fait qu'on avait du temps pour faire de la recherche.
Oui. Et puis, Marjorie, toi qui sans doute... Je suis sûre que tu t'intéresses beaucoup à l'histoire, mais c'est parce que sur le... Justement, quand on va sur le site de Mémoire métissée, on retrouve toutes sortes de petites capsules où on a cette histoire de gens qui ont peuplé, finalement, le Québec. On retrouve une autre histoire, très souvent. Et c'est ça, sans être historienne, vous nous faites partager des histoires aussi.
Oui. En fait, évidemment, on le sait, là, l'histoire est celle des vainqueurs dans tous les peuples. Et il y a toute une partie de notre histoire qui est occultée. Puis c'est des choses qui sont, effectivement, tu le dis, je ne suis pas historienne, donc c'est des choses qui sont quand même accessibles. C'est des sources ouvertes, là. Évidemment, on a fait une capsule sur Mathieu Lacosta, qui est le premier Africain qui est répertorié en Nouvelle-France, qui arrive dans le bateau de Samuel de Champlain et qui va servir d'interprète aux Européens auprès des Autochtones. Ça veut dire qu'il était venu avant, puisqu'il parle le pidgin, qui était la langue d'échange. Mais quand même, et puis on comprend que les Portugais venaient pêcher dans le Saint-Laurent bien avant, évidemment, qu'on ait les gens qui ont supposément découvert l'Amérique qui arrivent. Mais donc, les Portugais venaient déjà pêcher dans le Saint-Laurent. C'était des esclavagistes. Il y avait donc des Africains sur cette terre-là. Et donc, Mathieu Dacosta, on a quand même 8 contrats là, qui attestent de son existence. Les contrats, ça ne crée pas nécessairement le narratif. Mais ça nous place quand même une certaine information. Et donc, on suppose que c'était probablement un esclave qui avait été libéré en raison de ses talents de navigateur et d'interprète.
Oui, c'est ça. Alors, ça fait tout...
Le travail en amont,
c'est incroyable. Oui, tu as raison. Ouais. Et puis, ça nous interpelle parce qu'effectivement, on va... à travers ce court-métrage, d'abord, moi, j'avais vu la copie de travail qui durait 40 minutes. Alors, c'est ça, Catherine m'a dit, non, Chantal, c'est maintenant 15 minutes autour de ça. Hein.
Ouais,
et puis, c'est un court-métrage. Sinon, 40 minutes, ce serait un moyen-métrage.
Ouais.
Alors, mais en fait... Et donc, ça a été ramassé. C'est vraiment une belle qualité aussi cinématographique. Hein. Bon, c'est pas pour rien que vous avez gagné un prix aussi. Alors, ce film-là se promène un peu partout. D'ailleurs, tu t'en vas avec au Maroc prochainement,
le 10 septembre. Oui, dans la communauté des Autochtones d'Afrique du Nord. Ça va être assez intéressant, les Amazigh. Je m'en vais là. Ben, en fait, là, il est au Perséide cette semaine, en Beauce le 6, puis ensuite au Maroc. En tout cas, bref, ça se promène. Il y a eu à peu près...
Puis les commentaires sont très, très, très élogieux aussi. Okay. Hein. Évidemment, tout les questions identitaires, là, c'est dans l'air à tous les niveaux, que ce soit LGBTQ+, enfin, quel que soit l'aspect racial, enfin. Mais justement, Marjorie, ces questions-là, ce sont des questions aussi qui t'ont interpellée dans ton parcours de vie.
Oui, tout à fait. Toutes les questions raciales et puis comment on se positionne par rapport à ça et tout ça, puis dans les expériences aussi vécues, parce que... Oui, au niveau de la société, il y a toutes les grandes questions sur le racisme et tout, mais il y a le vécu quotidien aussi.
Ouais. Comment on se définit soi-même? Hein?
Soi-même, et puis comment on passe à travers ça aussi.
Ouais.
Parce que souvent, moi, je suis plutôt du genre à ne pas le... Ça n'a jamais été un handicap. Au contraire, mes enfants, je les ai élevés aussi pour qu'ils soient fiers de leur identité. D'ailleurs, je les envoyais un mois dans un camp de vacances en Haïti pour apprendre la langue étant nés d'ici, je voulais qu'ils apprennent le créole, qu'ils savent ce qu'ils sont pour qu'ils puissent mieux évoluer. Et puis j'ai dit, si jamais il y a quelque chose, tu passes ton tour. Parce que souvent, lorsqu'on prend le racisme puis qu'on le met comme un boulet, souvent, ça nous empêche d'avancer. Alors moi, j'étais beaucoup plus à les éduquer pour qu'ils avancent. Ils ont tous réussi sans ce problème-là. Par contre, c'est pas de jouer à l'autruche, c'est-à-dire de mettre la tête dans le sable. C'est de bien l'identifier, mais de pas le laisser comme un empêcheur de tourner en rond, là. Donc, c'était dans ce sens-là.
Parce que peux-tu dire que depuis que tu es arrivée au Québec, tu as été victime de racisme? Tes enfants ont été victimes?
Oui, tout à fait. Très clairement. Mais puis souvent, moi, je l'ai su. Même quand j'allais pour des postes, puis une chance que j'ai toujours quelqu'un qui vient me le dire. Donc, ce n'est pas juste quelque chose qui est dans ma tête. Je n'ai pas eu le poste. Et puis finalement, après ça, même quelqu'un du comité m'appelle puis dit, écoutez, vous étiez la meilleure candidate, mais ils n'étaient pas prêts et j'aimerais ça travailler avec vous. D'ailleurs, mon premier mentor, c'est comme ça que je l'ai eu, qui est décédé malheureusement il y a 3 ans, mais c'est ça parce qu'il voyait que non, tu étais la meilleure candidate, donc il m'a confirmé que les autres n'étaient pas prêts à travailler avec, puis en plus c'était directrice du développement des affaires, il dit ouais, mais comment ça va passer, c'est une noire par rapport à ça, donc ils étaient en train de prêcher pour à travers leur fermeture, donc plusieurs choses comme ça, mais je me suis dit bon ok, j'avance dans la vie, mais de façon très concrète, mon fils dernièrement s'est fait arrêté. D'ailleurs, c'est en justice, ce cas-là, sur le pont Champlain, parce qu'il y avait une rame de l'année. Mais il a sa compagnie, sa compagnie va très bien. Donc, alors,
ce type de profilage.
De profilage.
Exactement, c'est très fréquent. Donc,
alors, j'ai l'impression de porter des lunettes roses parce que pour moi, en ce moment, on dirait que je le vois pas, mais je me dis, ça se peut pas que ça existe encore.
Ah oui,
ça se peut pas. Je non sais que ça existe, mais c'est ça.
En fait, non seulement ça existe encore, mais tu sais, c'est vrai qu'au Québec, et on lance la pierre à personne, là, c'est-à-dire que c'est vrai que l'histoire a été cachée. Je veux dire, il y a eu un marché aux esclaves au marché Boncourt, là.
Bien oui.
Alors, tu sais, il y a une plaque qui met fin à l'esclavage en Nouvelle-France. Ça veut dire qu'il y en a eu.
Il y en a eu.
Qui est dans le Vieux-Montréal. Je veux dire, mais tu sais, moi, très souvent, les gens me disent, oui, mais c'était pas ici. Ici, puis ben oui, c'était ici. Puis tu sais, l'autre chose, en fait, qu'il faut, puis c'est important pour les afrodescendants de le savoir, il y a une chose qui s'appelle l'épigénétique. Mm-hmm. Et l'épigénétique, c'est la marque génétique d'un traumatisme commun sur l'ADN. Mm-hmm. Et ça, c'est vrai, c'est pas moi qui le dis, là, c'est scientifique. Et donc, ça veut dire que comme afro-descendants, comme pour les gens qui ont vécu la Shoah, pour les Juifs, etc., les traumatismes qui sont donnés sur une population donnée, en fait, on peut l'étudier. Et donc, c'est réversible, mais je veux dire, on est encore à une époque où on nie le racisme systémique.
Oui, voilà.
Est encore, alors qu'on sait très bien que ça existe, là. Et même la police le reconnaît. Je veux dire, il y a plein de monde qui... Bon, alors, mais tu sais, quand le premier ministre, faut bien le
c'est
dire,
ça,
là,
quand hein, le gouvernement n'ose pas dire...
Dit, ça n'existe pas, on a un problème.
Il n'ose même pas le dire.
Tout à fait.
Le prononcer.
Et alors, tu sais, je veux dire, alors que, je veux dire, ça existe dans beaucoup, dans plusieurs sociétés, en fait, dans presque toutes les sociétés. Mais nous, au Québec, on serait meilleurs que les autres,
pas.
On aimerait ça.
C'est ça, puis de le dire, de le reconnaître, c'est un premier pas vers la guérison, le fait de dire, OK, on reconnaît, puis maintenant, c'est pas de rester sur ça, c'est maintenant de dire, ben, qu'est-ce qu'on va prendre en tant que société, en tant que gouvernement, quelles sont les décisions qu'on va prendre pour que ça aille mieux.
Exactement. Si on ne reconnaît pas le problème, on ne peut pas prendre les mesures pour le corriger. Alors, c'est un peu la même chose. Puis même toute la question de l'esclavage, je veux dire, 400 ans d'esclavage, des millions de déplacés, les pays esclavagistes ne reconnaissent que très peu cela. Mm-hmm. Alors, et c'est sûr que c'est une guérison quand ne serait-ce que la reconnaissance de dire... Effectivement, tout ça a existé, c'est terrible. C'est quelque chose qui fait partie de notre passé commun, comme humanité. Les experts disent toute l'économie mondiale est basée sur l'esclavage, c'est quand même pas rien, là. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui se sont enrichis. Il y a des choses à dire pour effectivement arriver à sortir un petit peu de ça. Mais tant qu'on nie les choses, c'est impossible.
Ben ouais.
Ouais. C'est, en fait, c'est très... c'est des conversations qui... enfin, on pourrait être ici 3 heures.
Ben oui.
Que, non, mais c'est intéressant, c'est passionnant. Juste, ben, de toute façon, là, on a un grand test aussi qui s'en vient aux États-Unis. Hein, alors, on va...
Ah oui!
Ça, c'est autre chose. Hein. Il y a un grand test qui s'en vient.
Ouais, ouais.
Alors, chose certaine. Alors, donc, mémoire métissée. Alors, c'est vraiment une belle façon aussi de provoquer ce genre de discussion,
conversation.
Et toi, en te promenant comme ça de festival en festival, est-ce que il y a des similitudes aussi dans le discours?
Bien sûr, c'est sûr que là, tu sais, je me suis beaucoup promenée à date en Amérique et en Europe.
Ouais, donc,
fait que là, tu sais, c'est comme un peu plus du terrain connu, on va dire ça. Là, le Maroc, je suis très excitée parce
que... qu'est-ce que ça va donner?
Qu'est-ce que ça... Bien, d'abord, ils ont sélectionné le film.
Ouais.
Je vais être une invitée d'honneur à l'Université d'Agadir pour aller rencontrer les gens de la communauté amazigh, qui étaient les Berbères, hein, les Bédouins, etc. Mm-hmm. Mais maintenant, ils sont comme regroupés, c'est les Autochtones d'Afrique du Nord, bien qu'ils viennent de différents pays, là. Donc, les Autochtones d'Afrique du Nord, dans lequel prend racine ce festival qui existe depuis 15 ans, en fait. Et là, j'ai hâte de voir... mais c'est sûr que le métissage, parce que c'était ça quand même le thème du film, au départ, on est toutes des femmes métissées, bien que Katia Tony, qui joue, qui elle, est haïtienne, est plus dans le métissage culturel que dans le métissage physique, un peu comme toi.
Oui.
Mais quand même, qui joue Clara, j'ai eu un moment de d'égarement.
Alors que toi, tu as dans ton... Enfin, toi, ce que tu incarnes, finalement, c'est tout ce flou-là dont on parlait au début. Là. Finalement, t'es, en apparence, t'es blanche, québécoise et tout, mais à un moment donné, tu finis par dire... Bon, tu commences par dire « je suis afro-descendante », puis après ça, bon, l'autre se définit comme haïtienne. Après ça, « je suis une personne immigrante ». Et là, toi, tu arrives et tu dis « moi, je suis une personne noire ». Évidemment, y a un effet comique là-dedans, mais c'est tout ça aussi, savoir comment te définir. Et c'est ton personnage, enfin, là-dedans, c'est clair que tu trouves difficile de... Et pourquoi faudrait-il toujours se définir? C'est un peu la question
en
même temps.
Oui, mais c'est important. Parce que, pour toutes les bonnes et les mauvaises raisons qu'on vient de donner, c'est important de savoir qui on est et d'où l'on vient. Pour moi, mémoire métissée, c'est sûr que je ne l'ai pas fait parce que ça ne me trottait pas dans la tête.
Ouais.
Tu sais, clairement.
Ouais. Tu as écrit, tu l'as scénarisé.
Je l'ai écrit, bon. Mais effectivement, enfant, j'avais un père noir, une mère blanche. Bon, ça a quand même créé quelques impacts. Je le dis d'ailleurs dans le film, celui qu'on traitait du mot en haine, moi, je l'appelais papa. Et j'ai vécu ça. Donc, moi, j'ai vécu des attaques racistes par mon père, mais c'est l'homme que j'aime le plus au monde, le jeune enfant.
Bien sûr.
Alors, ça marque aussi. Puis j'ai évolué, puis bon, effectivement, j'ai travaillé au Cirque du Soleil pendant quelques années. J'évoluais dans un milieu qui était plus blanc, plus en fait, plus près de la majorité. Et quand est arrivée toute l'histoire de Slav, je me suis rendu compte à quel point on n'avait pas la même perception. On pouvait pas avoir... Et ça a commencé là, moi, ma quête d'identité. Mais j'ai toujours dit que j'étais métissée. Ça, c'était pas un enjeu. Mais après, puis avec mémoire métissée, tu vois, je disais souvent, au début, quand on a commencé à travailler, même je disais, je suis ni blanche ni noire, tu sais. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais non, mais t'es blanche et noire.
Oui.
T'es pas ni l'un ni l'autre. T'es les deux.
Donc, toujours, on revient à l'inclusion, hein, Marjorie, forcément.
Oui, puis pour répondre à ta question, Chantal, c'est-à-dire ce besoin d'identité, moi je le fais. Moi, je suis immigrante. Mais par contre, mes enfants sont nés ici. Ils se font toujours demander, « Ah, mais d'où viens-tu? Quelle origine? » Pourtant, retourne dans ton pays. Ben non, je suis née au Québec.
Donc, c'est ma culture.
C'est ma culture.
Exact.
Alors, c'est ça. Et puis ça aussi, si on ne fait pas attention, dans le transfert aussi d'identité, ils peuvent se sentir un peu pas tout à fait québécois, mm-hmm. pas tout à fait. Mm-hmm. Puis pourtant, ils doivent bien représenter les deux cultures ouais. qui les fondent parce que c'est comme ça. Alors, c'est vrai que quand tu poses la question, je me dis, ouais, c'est vrai, est-ce qu'on a encore besoin? Mais non, on a encore besoin ouais. parce que c'est ce qui fait aussi qu'on devient forte à l'intérieur d'une culture ou d'un, ou d'un pays d'accueil, etc. Parce que déjà, on se sent bien, on se sent... Mais vraiment, pour Catherine, je sais aussi que c'est le problème aussi des gens métissés. Alors, les parents noirs et blancs, mm-hmm. c'est que souvent, je suis où? Je suis noire, je suis blanc, puis finalement, on est les deux.
Les deux,
il n'y a pas un choix.
Il n'y a pas un choix, c'est l'un et l'autre.
On n'a pas besoin de choisir.
Non, puis c'est drôle parce que quand tu dis tu viens d'où, moi, on me dit souvent, ton père, il venait d'où. Puis je dis toujours, il vient d'ici.
Ben oui.
Et puis là, on me dit, oui, mais avant. Et puis là, je dis, ben ici. Oui. Et puis là, à un moment donné, j'ai avant. Puis là, je dis, ben si tu veux savoir, avant, ils sont venus par l'Underground Railroad, oui. ils sont venus de la Barbade, ils sont venus par les bateaux de la Grande-Bretagne comme esclaves. Fait que avant, on peut remonter, tu sais. Ouais. Puis là, je dis toujours, mais ma mère, est-ce que tu veux savoir, elle vient d'où?
Oui.
Parce qu'elle n'est pas autochtone. Fait qu'elle vient pas non plus d'ici.
C'est intéressant comme regard. C'est fou hein, quand on s'y arrête quelques instants. Alors, vraiment, des parcours. D'abord, juste pour conclure, là, mémoire métissée pour des écoles, par exemple, qui voudraient avoir le film, ça, il n'y a pas de problème. Hein,
mais pour l'instant, c'est-à-dire qu'ils vont avoir la copie de travail. Parcours métissé est disponible pour des écoles. Donc, c'était parcours. Mm-hmm. Mémoire métissée, comme il est en festival, on ne peut pas le diffuser ailleurs que mm-hmm. pendant les festivals. Cependant, il est acheté par Radio-Canada, donc il est en diffusion éventuellement. Évidemment, là, il y a une douzaine de festivals, mais il va être dans les quartiers aussi pour le Festival Black de Montréal.
Mm-hmm. Plein de choses. On suit ça. De toute façon, vous avez tout le processus là, sur votre site, en même temps le parcours du film. Marjorie, n'est-ce pas, Nathalie, ça a été vraiment un plaisir d'accueillir Marjorie. Alors, évidemment, vivement les femmes, ça continue, ça?
Vivement.
Ça ne va pas arrêter?
Non, ça ne va pas arrêter. Les femmes, ça continue cet automne. À rencontrer, justement, pour l'automne aussi, des femmes extraordinaires, là, au micro.
On suggère aux gens d'aller en rattrapage sur Canal M pour aller écouter les entrevues.
Exactement.
Ouais. Belles entrevues.
Et puis, alors, évidemment, ça a été intéressant de partager tout ton parcours de vie. Alors, tu es une femme merveilleuse et puis on est très heureuse de t'avoir...
Comme patronne.
Comme patronne, oui.
Oui, c'est ça.
Je pensais que tu allais dire comme mamie. Fait que là, j'ai...
On va faire une petite gêne. Le temps de l'émission.
Voilà.
Alors, ça a été vraiment très intéressant de partager ça. Et puis déjà, on arrive à la fin de la semaine, Nathalie.
Oui, puis il nous reste une semaine après.
Oui, c'est ça. Alors, après ça, ce sera autre chose. Mais notre saison estivale qui se termine, qui
aura
été chargée de toutes sortes d'activités, vraiment. L'été, ça ne prend pas de vacances.
Non, vraiment pas.
Ben, merci à toi, Chantal et Nathalie, parce que vous avez animé ça pendant tout l'été. C'était extraordinaire, le contenu et tout. Ouais. Alors, merci pour ce bel engagement envers Canal M.
Merci, Catherine, d'être... on a été tellement chanceuses de t'avoir là avec nous. C'était formidable.
Ça a été un grand, grand plaisir.
Oui. Merci, Catherine.
Merci. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous et puis on se retrouve lundi pour M l'été entre midi et 13h. Au revoir.